Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle émission d'Au fil des bobines. Au fil des bobines, c'est l'émission de Cinéphile qui vous présente les films que nous avons sélectionnés pour le mois à venir. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois personnes de Cinéphile. Bonjour Hervé.
Bonjour Godefroy.
Bonjour Valentine.
Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et nous allons commencer parce que vous avez entendu la voix de Valentine. Et Valentine, c'est la nouvelle salariée coordinatrice de Cinéphile. Valentine, tu as donc rejoint l'équipe de Cinéphile depuis début janvier.
Début janvier, oui.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pour que nos auditeurs puissent te connaître ?
Eh bien, je suis Valentine, j'habite à Tours depuis 8 ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans des structures soit associatives, soit publiques autour du cinéma. Donc là je continue avec Cinéphile, même si je me déporte à Blois. Sinon, sur Tours, je suis beaucoup bénévole dans des structures associatives. Et là, en ce moment, je suis engagée avec Mauvais Tour, qui est un festival de ciné. Donc toujours dans le cinéma.
Voilà, nous sommes absolument ravis d'accueillir Valentine et de mettre ses compétences au service de Cinéphile. Vous pourrez donc l'entendre sur nos émissions de Studio ZF, la rencontrer lors des séances et pouvoir échanger avec elle. Alors nous avons un programme quand même assez chargé avec 4 films à vous présenter et un petit bonus en milieu d'émission. Tout d'abord peut-être Hervé, quelques mots sur le film qui sera donc présenté dès ce soir, mercredi 28, Franzka.
Oui, alors un mot rapide parce qu'effectivement on est un peu chargé, il y a d'autres films à suivre, mais donc je vais juste dire un mot très rapide de ce film d'Agnieszka Holland. Et ben c'est un film un peu comme La pensée de Franz Kafka, qui est assez foisonnante, et le film est assez particulier par son montage. On voyage dans les époques, à la fois l'époque actuelle, l'époque de Franz Kafka. On a quasiment des interviews de sa famille, comme si on était dans cette époque-là, et en même temps on est renvoyé à des images de ce que devient l'œuvre de Kafka au XXIe siècle. Voilà, donc film assez étonnant que j'ai beaucoup aimé, donc je vous invite à aller le voir. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, c'est très compliqué d'en dire beaucoup plus.
Et on aime bien, nous aimons bien à Cinéphile vous proposer des fois des films justement un petit peu étonnants qui sortent des chemins battus. Nous allons revenir ensuite avec Valérie sur un film que nous avions déjà présenté à la précédente émission, un film de Louis Aymon, L'Englouti. Et Valérie, tu nous avais proposé d'en redire encore quelques mots parce que c'est un film qui t'avait vraiment touché dans à la fois son aspect de réalisation, ce qui s'y joue, donc... nous t'écoutons.
Voilà, donc en fait, lors de l'émission précédente, j'avais surtout parlé du synopsis et de la manière un petit peu dont Louis Aymon avait construit son scénario. Donc moi, je rappelle que j'ai eu l'occasion et l'honneur de voir ce film à Cannes, donc dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Alors maintenant, enfin, pour la deuxième émission, on va plutôt aller un peu plus loin sur les origines de Louis Aymon et l'impact qu'elles ont eu sur justement ce film-là. Donc Louis Aymon, il faut savoir que sa famille est originaire des Hautes-Alpes. Donc c'est un territoire qu'elle a vraiment bien connu et qu'elle connaît, puisque chaque année elle s'y rend, même si elle vit elle-même à Paris. Donc voilà, ses ancêtres vivaient dans les Alpes, et c'est important puisque l'Englouti a été tourné justement dans les Alpes, dans ces Alpes entourées de montagnes, au milieu de la neige, puis ça s'est tourné en hiver aussi. Et ça a été tourné dans le village dans lequel Louise Aymon a passé tous ses étés. Donc c'est un territoire qu'elle connaît bien. Et ça, c'est une première chose. Et ses ancêtres étaient aussi une famille d'instituteurs du début du siècle. Donc par exemple, son arrière-grand-tante, qui s'appelait Aimée, c'est le prénom de l'héroïne de L'Englouti. Donc Louise Aymon a fait des recherches sur les carnets de son arrière-grand-tante, qui elle-même avait été nommée dans un village des Alpes au début du siècle. Et donc elle s'est beaucoup servie de cette expérience-là. Et elle avait déjà des images qui s'étaient construites à la lecture de ce journal. Et donc ça l'a beaucoup inspirée. La mère de Louise Aymon est aussi originaire des Alpes. Et donc, pour elle, c'était le territoire complètement adéquat pour tourner ce film-là. Après, pour les gens qui se sont occupés de la lumière, ça a été aussi un travail important. Alors, la chef opérateur, c'est Marine Atlan, qui a beaucoup travaillé sur la prise d'image à la lumière des bougies, en fait. Et donc, voilà, ils ont travaillé un petit peu dans la pénombre, avec des jeux d'ombre et de lumière, puisque, évidemment, au début du siècle, il n'y avait pas d'électricité dans ces villages reculés des Hautes-Alpes. Et elle a voulu vraiment retrouver l'époque, en fait, par ce jeu d'ombre et de lumière. Alors, Louise Aymon dit que parfois, ça évoquait l'éclair obscur et ça faisait penser éventuellement au Caravage, mais que dès que l'image devenait trop belle, elle l'arrêtait, parce qu'elle ne voulait pas qu'on pense au tableau, elle voulait plutôt qu'on s'attache au personnage. Voilà, donc ce travail-là, c'est vraiment particulièrement intéressant. Et puis, dernière chose... Louise Aymon, elle a l'habitude aussi, dans ce territoire des Hautes-Alpes, d'aller aux archives. Et elle a glané comme ça plusieurs informations sur des récits, des traces, sur l'histoire de ces villages. Et il faut savoir, ça c'est intéressant, qu'à partir de 1850, il y avait des populations de ces villages qui partaient, par exemple, en Algérie française à l'époque. Et ils avaient été choisis, ces personnes-là, parce qu'en fait, ils savaient rendre... Il savait cultiver les terres arides. Et comme en Algérie, les terres étaient plutôt arides, il y a beaucoup de personnes des Hautes-Alpes et des Alpes, en général, qui ont été dans des pays comme l'Algérie. Voilà, donc des transferts comme ça de population. Donc ça, c'est des trajectoires aussi intéressantes. Mais même si on ne les retrouve pas dans le film, c'est intéressant de le savoir. Et après, pour Louise Aymon, il y a l'héritage familial dont j'ai un petit peu parlé. Donc, elle a grandi avec des récits d'instituteurs, d'institutrices, les hussards noirs de la République, marqués par l'idéal laïque et républicain. Donc, des enseignants souvent athées qui cherchaient à forger les esprits éclairés, puis qui luttaient contre toutes les superstitions, et ça, on le voit bien dans le film. Voilà, donc il y a un héritage fort qui transparaît dans le film qu'elle a réalisé. Et ça, c'était intéressant de le voir.
Un film, tu nous avais dit, qui est très ancré dans cette géographie des Hautes-Alpes, en effet, qui est un département tout à fait singulier. Terre d'immigration, en effet, puisque des habitants des Hautes-Alpes, en effet, au début du siècle, partaient aussi pour les États-Unis. Il y a toute une communauté comme ça de liens avec les États-Unis. Et il y a même certains villages qui ont été entièrement abandonnés.
Oui, c'est ça.
Donc une belle illustration à la fois du début des années 1900, du rôle de ces Blouses Noires de la République, en effet, et surtout une mise en image qui est quand même... assez superbe. Un joli film donc à vous présenter. Et puis nous avions parlé d'un petit bonus. Donc nous avons le plaisir de vous faire entendre l'interview que nous a délivrée Dominique Cabrera lorsqu'elle est venue le 12 janvier dernier pour la soirée événement que nous avions fait avec une double projection. D'une part, La Jetée, le film de Chris Marker, et puis le tout dernier film de Dominique Cabrera, Le cinquième plan de La Jetée, qui aussi reprend à la fois l'histoire familiale et la grande histoire. À cette occasion-là, Dominique Cabrera nous avait parlé un petit peu de son film et du contexte de son film. Bonsoir Dominique Cabrera.
Bonsoir.
Merci d'être venu nous accompagner, merci de votre présence ce soir. Pour accompagner cette séance de cinéphile, nous nous présentons à la fois La Jetée de Chris Marker et votre tout dernier film, Le cinquième plan de La Jetée. Alors d'abord, pour éclairer nos auditeurs, est-ce que c'est vraiment le fait que votre cousin Jean-Henri ait par hasard découvert sa potentielle possible présence sur cette cinquième image du film qui a été le déclencheur de votre recherche?
Absolument. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vu sur la page Facebook de mon cousin Jean-Henri cette histoire incroyable. Je me suis reconnue et j'ai reconnu mes parents dans le cinquième plan de La Jetée. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'évidemment, La Jetée, c'est un grand film de Chris Marker. J'avais connu Chris Marker et puis bah, je suis cinéphile, donc je connaissais très bien La Jetée. Et que mon cousin, éventuellement, soit dans ce film, ça m'a électrisée, quoi. Quand j'ai regardé en quelle année avait été tournée La Jetée, j'ai vu que La Jetée avait été tournée en 1962. Et là, c'était inouï parce que, évidemment, 62, pour moi, c'est une année vraiment importante puisque c'est l'année de notre arrivée en France. Et donc, la conjonction entre ces deux faits, c'est-à-dire 1962 et puis la présence de mon cousin et de ses parents dans le film de Marker, évidemment, c'était comme un déclencheur, quoi. C'était comme une espèce de coup de foudre, quelque chose d'extraordinaire.
Et on sent combien...
C'était la date et la chose, en fait. Parce que la date, elle était... Enfin, c'est une date qui est inscrite en rouge dans mon esprit, quoi.
Et on sent combien le film, votre film, joue sur les résonances, les associations entre le film de Chris Marker et votre propre recherche. Moi, j'ai été frappé par le fait que dans votre film, vous utilisez aussi beaucoup les photos, les diapos. Et mmh. ça, c'est quelque chose qui renvoie beaucoup aussi à La Jetée.
Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que La Jetée, c'est un très grand film photographique, en fait, hein, puisqu'il est composé de photographies. Et la mémoire familiale, elle est composée de photographies aussi. Donc, il y avait déjà une espèce d'écho, de matière, en fait, entre le film de Marker et le fait de chercher dans notre mémoire familiale. Donc, ça voulait dire chercher des photographies. Et le film de Marker, il est composé de photographies. Donc, déjà, il y avait une espèce de passerelle formelle. Et puis, moi, je suis hantée par la photographie parce que je suis d'une famille de photographes, parce que j'ai commencé à aimer le cinéma, je pense, par la photographie. Je fais tout le temps des photographies. Je vois la vie en photographie. Enfin, je vois des photographies tout le temps. Donc, là, je crois que le film de Marker était, en fait, une occasion polyphonique d'exploration. Exploration à la fois dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire des formes, dans ce qui me passionne le plus. Enfin, il y avait là quelque chose, en fait, j'ai souvent pensé à ce film, comme, enfin, cette occasion de film, comme un coup de foudre, en fait. C'est-à-dire, soudain, on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu et il y a une espèce de souterrain qui se fait entre deux personnes, quoi. C'est... Voilà. Et là, il y a eu cette espèce de coup de foudre, d'évidence, que c'était un sujet pour moi, mais multiforme, polyphonique.
Polyphonique et avec énormément de coïncidences, de rapprochements inattendus, notamment avec l'acteur. Enfin,
oui, Davos Anish, l'acteur principal du film. Oui.
En fait, je pense que
c'est tout à fait vertigineux. Mais c'est-à-dire, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de faire ce film, de faire cette recherche, après ce coup de foudre, en fait, mon cousin Jean-Henri disant qu'il est dans le cinquième plan de La Jetée et moi découvrant que La Jetée avait été tournée en 62, c'est-à-dire l'année de notre arrivée en France dans ma famille pieds noirs rapatriée d'Algérie. Quand je me suis aperçue de ça, j'ai commencé à chercher, mais je n'avais pas de sujet de film. C'est-à-dire que la plupart des films, en fait, ils sont construits autour d'un sujet. Documentaire ou fiction, on va avoir un sujet. Or là, je cherche sans avoir de sujet. Et donc, ça fait que je me mets à chercher le hasard objectif, si vous voulez. Je suis dans une forme d'ouverture par rapport au hasard de la vie. Et je crois que c'est quand on est dans cette situation-là que les coïncidences et les échos apparaissent davantage que si on va être focalisé sur un sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'étais dans une recherche quasiment poétique.
Tout à fait, parce que ça ouvre à de multiples dimensions.
C'est ça.
La dimension du temps, du souvenir, des associations en effet quasi poétiques.
Oui, mais je crois que c'était parce qu'il y avait ce point de départ-là qui était particulièrement ouvert. Je m'attendais à ne rien trouver et j'espérais tout trouver. Et comme j'espérais tout trouver, ben, j'ai trouvé plein de choses. Mais il me semble que en fait, c'est l'attitude elle-même qui a fait cette ouverture. Peut-être que aussi Marker était un extraordinaire médium. Il y a dans son film une dimension prophétique, en fait, mais qui, je pense, peut fonctionner à travers le temps. Parce qu'il était, d'une certaine façon, un médium. En fait, c'était presque... Parfois, on peut penser qu'il n'est pas mort.
Mais vous avez parlé...
qu'il a arpenté le monde. C'est un grand voyageur. Donc, on pourrait imaginer qu'il est toujours là, quelque part, dans un aéroport.
D'autant que vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'ombre de Marker dans,
oui, c'est vrai,
dans la dernière
c'est
partie de votre film, avec l'ombre, le reflet dans la vitre, puis ensuite aller chercher à travers...
Oui, c'est comme un fantôme toujours voilà. présent. Oui. Oui, c'est vrai. Mais je crois que lui-même se projetait comme... C'est-à-dire qu'il ne voulait pas apparaître sur le devant de la scène, et en même temps, il avait comme le fantasme d'être omniprésent. Dans son atelier, il y avait des téléviseurs branchés sur toutes les chaînes du monde entier, et par moments, il prenait des bouts de... Enfin, ce qui l'intéressait dans les actualités qui venaient du monde entier, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée d'être sur toute la Terre, en fait. Il a fait un film où il dit il est 20h à Pékin, il est 5h du matin ici. Vous voyez, c'est-à-dire cette idée d'être... partout. Et quand il va faire ses films aussi, il y a cette espèce d'idée d'englober toute l'histoire.
Et dans le film, dans La Jetée, il y a quand même la présence, la prégnance quand même de la mort.
Bah oui.
Alors que, je dirais, dans le cinquième plan de La Jetée, votre film, j'ai plutôt senti la présence des disparus.
Oui, 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 vous avez raison, c'est vrai.
Qui réexistent, qui sont amenés par les paroles des porteuses de mémoire que sont votre maman, votre tante.
Oui, oui, c'est vrai, l'épouse de Marker, de Davos Anish. Et la fille de Davos Anish, c'est l'acteur principal de La Jetée. Oui, oui, c'est vrai. Ben, je pense que j'ai pas la même perception de la vie que Marker, voilà. C'est quelque chose comme ça, hein. C'est ça, c'est ce qui transparaît dans les films, c'est ce qu'on est profondément, et sûrement que je suis plutôt hantée par le désir de continuer la vie que de... C'est vrai que La Jetée est un film très, très mortifère. Hein. C'est...
Très noir.
Oui, ouais. Très noir, oui.
Vous êtes plutôt du côté de ce qui est dit par une intervenante de film, des échos qui ne disparaissent pas.
C'est vrai, je suis d'accord. Oui, tout à fait, vous avez raison. Bah, c'est-à-dire que, en fait, voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est le changement du projet, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pensé à un film assez abstrait qui explore la manière dont La Jetée avait été fait, qui explore les archives, assez cérébral en fait, hein, qui mettent en relation différents plans. Et finalement, le film que j'ai fait, effectivement, on voit beaucoup de photographies, mais on voit aussi beaucoup de visages.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai rencontré les témoins, et dans ma famille et dans l'œuvre de Marker, de son travail, et le film a été déporté vers leur présence, vers leur visage. J'ai aimé les filmer, en fait. Et j'en ai filmé trop, d'ailleurs. J'en ai filmé énormément. Et ça a été un de mes problèmes. Le film débordait des témoins, en fait. J'avais trop de personnes. Je l'ai trouvé magnifique, en fait, dans leur présence, dans l'instant, en fait, dans leur présent.
Il est animé par leur présence, à tous ces
vrai.
Témoins. De famille
ou
de proches de la famille de Davos. Il donne un côté extrêmement vivant.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par rapport à ce film-là, c'est un peu toujours le cas dans les films, mais il y a aussi par rapport à ce film-là, la sensation qu'ils vont disparaître. C'est-à-dire, ce sont les derniers témoins. Et de ma famille, en fait. Hein. Et bah, pour Marker, encore plus, quoi, puisque d'ailleurs, Florence Delay, qui était une amie de Marker et qui a été la Jeanne d'Arc de Bresson et la voix de Sans Soleil, elle est morte au début de l'année, en fait. Et tous les témoins, en fait, j'avais le sentiment qu'ils pouvaient disparaître. Et donc, il fallait saisir absolument, parce que j'étais sous le charme, hein, il fallait absolument saisir ce qu'ils avaient de vivant, ce qu'ils avaient de beau, leur beauté. Bah, c'est l'essence du cinéma, hein, voilà.
Oui,
essayer de capter la vie des gens,
c'est un film
la vitalité peut-être.
Qui parle aussi beaucoup justement du cinéma et de la manière aussi, j'ai trouvé extrêmement touchant, quand on vous amène les restes de bobines justement que Chris Marker avait fait
donner à
Hélène.
Hélène Chatelain, l'héroïne de
la Et qu'il a fallu les coller.
Et les regarder.
Les coller dans un geste qui ne se fait plus beaucoup maintenant.
Avec une presse
voilà.
35 mm, oui.
Voilà, 35.
C'était beau, oui.
C'était très beau parce que ça refaisait exister le cinéma en son essence
c'est
même.
C'est ça, oui. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans ce film. C'est d'avoir les différents outils, en fait, depuis le temps de Marker jusqu'à aujourd'hui, présents et les différentes matières, en fait. Je cherchais un endroit où on puisse sentir ça. Et j'ai trouvé donc un lieu à Montreuil, qui est le lieu d'une association qui s'appelle l'Etna, de cinéastes expérimentaux qui font des films en argentique. Et donc, dans ce lieu, il y avait à la fois les outils du temps de Marker. Donc, ils m'ont dit « Ah, il y a une table de montage qui a dû servir à Marker. » Bon. et puis des outils contemporains, en fait, hein, des ordinateurs, etc. Et donc, effectivement, dans le film, voilà, il y a les outils du cinéma à travers le temps.
Et ça construit aussi un récit sur votre histoire, sur l'histoire, parce que 62, c'est à la fois l'Algérie, mais c'est aussi les morts de Charonne, sur l'histoire et sur le cinéma aussi.
Oui, oui, j'ai essayé de croiser tous ces fils, oui, comme dans une tapisserie.
Avec un travail de montage que j'ai trouvé assez impressionnant.
C'est vrai, c'est vrai.
Travailler souvent avec les mêmes personnes.
Là, j'ai travaillé avec deux personnes, en fait. Non, non, ça a été un cauchemar, le montage, très difficile. Donc, j'ai travaillé d'abord avec Dominique Barbier pendant pas mal de temps. C'est une très bonne monteuse. Et on a monté des séquences. Puis, on n'arrivait pas à, justement, tisser cet ensemble. Et Dominique est partie sur un autre film. Et là, j'ai retravaillé avec Sophie Brunet. Sophie, qui est une amie avec qui je travaille depuis très longtemps. Et à partir du travail de Dominique Barbier, on a retravaillé tout et on est arrivé à tisser un récit entre les différentes temporalités, mais ça a été très, 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 très difficile.
Avec quelque chose qui, quand même, est très fluide.
Enfin, oui,
en
c'est
résultat,
vrai. Le résultat est
fluide,
très fluide.
Et léger.
Oui, oui, on a l'impression de quelque chose de.
Mais
qui
coule de source.
Bah, y a eu une musique, en fait. Là, je pense qu'il y a une des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est la musique. C'est-à-dire que, en fait, je travaille avec une compositrice, Béatrice Thirier, qui m'a donné un très beau morceau qui s'appelle Shadows, Les Ombres. Et voilà, Shadows, ça nous aidait à passer d'une temporalité à une autre. Pour la musique, c'était assez compliqué parce que, en fait, la musique de la jetée, c'est des chants grégoriens extraordinaires, très amples, très mystérieux. Et donc, quelle musique mettre en relation avec ces chants grégoriens? Et donc, Béatrice voilà, a écrit une partition pour violon et mandoline, et c'est mes deux neveux qui l'ont joué. C'est un film totalement familial. J'ai une nièce qui est une grande virtuose qui s'appelle Élise Bertrand. Et un neveu, Oscar, qui joue de la mandoline. Et voilà, un jour, on les a enregistrés tous les deux. Et ça fait cette musique très, très simple. En fait, c'est comme quelque chose qui se construit et qui se défait, ce qu'a fait Béatrice. Et par une extraordinaire rencontre, en fait, cette musique était juste par rapport au mouvement, en fait, qui me meut dans le film, quoi. Et ça nous a beaucoup aidé, cette musique.
Et peut-être pour finir, une question un petit peu plus personnelle. Je crois que c'est Florence, dans le film, qui, quand on parle de qu'est-ce que serait le bonheur pour Chris Marker, elle dit le bonheur serait pour Chris Marker sous le visage d'une femme endormie.
Oui, c'est vrai.
Et pour vous, qu'est-ce que ce serait le bonheur ou l'image du bonheur?
Ah, je sais pas du tout, hein. Ça c'est difficile, hein. c'est atroce.
On va laisser la question ouverte.
Le visage du bonheur. Non, mais très sincèrement, le visage du bonheur, bon, évidemment, au-delà de la personne aimée, hein, ça évidemment, je pourrais répondre ça aussi, mais oui, moi, il me semble que ça pourrait être que les personnes que j'aime soient bien, en fait, soient heureuses, parce que je trouve que c'est une des choses les plus terribles de sentir les personnes qu'on aime souffrir.
Oui, parce que en filigrane quelque part aussi de ce film, il y a la question de la relation et aussi peut-être des relations d'amour qui peuvent être entre les êtres de la famille.
Oui, bah oui, oui, c'est que là-dessus d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que le film de Marker, c'est vraiment là-dessus. À un moment, je crois que c'est Hélène, en fait. À un moment, j'ai trouvé un interview d'Hélène Châtelain, donc qui est l'actrice principale de La Jetée, qui vivait avec Marker en 62, qui l'a beaucoup inspirée, et pour Le Joli Mai, pour La Jetée. Elle dit que La Jetée est sûrement un autoportrait, en fait, de Marker. Et je crois qu'elle a tout à fait raison. Moi, évidemment, je me suis un peu approchée de Marker grâce à ce film. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait raison. Il n'est question que de sentiments, en fait. Hein. Que de sentiments, que de l'image qui reste présente en vous, qui vous dirige à travers le temps. Que de ça dans La Jetée et un peu de ça dans le cinquième plan. Ouais. Les relations, les liens, les échos, proches ou lointains.
Merci beaucoup, Dominique Cabrera.
Je prie.
Quel plaisir d'entendre Dominique Cabrera nous parler de son film et aussi du film de Chris Marker, La Jetée. Et nous allons continuer maintenant avec le troisième film que nous présentons en février. Alors un film de François-Xavier Drouet. François-Xavier Drouet, c'est un réalisateur qui a déjà c'est son troisième long métrage. Il avait fait en 2013 La Chasse au Snark, qui était en fait un film tourné dans une institution belge qui s'occupe d'adolescents peu adaptés au système scolaire classique. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu aussi son long-métrage de 2018, Le Temps des Forêts. Le Temps des Forêts, c'était un long-métrage qui évoquait la manière dont les forêts, notamment les forêts domaniales, où les forêts privées sont exploitées de manière relativement industrielle, sans grand bénéfice pour la biodiversité, et avec des témoignages à la fois de propriétaires, mais aussi d'exploitants forestiers. C'est un très beau film à l'époque, donc 2018. Et puis là, il signe maintenant son troisième long-métrage, L'Évangile de la Révolution, et il revient donc sur toute une période des années 50, 60 et 70 en Amérique du Sud et toute l'implication à la fois des chrétiens mais aussi parfois des membres du clergé dans cette volonté de changer la vie, changer la politique, changer le système. C'est un film que tu as vu, Hervé, que tu as apprécié et que nous allons présenter donc à partir du lundi 16 février avec la présence du réalisateur. Hervé, quelques mots à propos de...
Oui. Alors, on le présente le 16 février. C'est une soirée exceptionnelle. Voilà. Ben oui, c'est un très, très beau film. Je viens de le revisionner. Donc, j'en sors juste avec beaucoup d'émotions. C'est un film qui dégage énormément d'émotions. Moi, ça m'a rappelé les années 70, 80, où on était concerné par cette théologie de la libération dont parle le film. Et oui, c'est très émouvant. C'est un très beau film, à la fois par les images, par les témoignages, qui mélange donc des témoignages actuels, hein, d'acteurs de l'époque, et puis des images aussi documentaires de l'époque. Alors, juste pour parler rapidement du film, je vais vous lire un petit texte. « Le souffle révolutionnaire qu'a connu l'Amérique latine au XXe siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie. À rebours de l'idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l'avènement du royaume de Dieu sur la terre plutôt qu'au ciel. » Et voilà, ça résume assez bien le film. Et ce qui rend le film, ce documentaire encore plus passionnant, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a une résurgence évidemment des pouvoirs autoritaires en Amérique latine et pas que en Amérique latine, mais malheureusement ça concerne à nouveau l'Amérique latine et on voit que les États-Unis à nouveau se situent auprès de ces régimes autoritaires comme ils l'étaient à l'époque auprès des dictatures de Pinochet, des dictatures brésiliennes, etc. Et donc c'est un peu vertigineux de voir que l'histoire
recommence, oui, voilà. Même de manière différente.
Un peu différente, mais finalement, on est... Voilà. Et alors, c'est un film passionnant aussi sur... je pense que pour tous les croyants, en général, même les non-croyants, d'ailleurs, même les athées, mais c'est assez passionnant pour les croyants, et j'espère qu'il y aura beaucoup de chrétiens, même à cette soirée, parce que ça questionne beaucoup qu'est-ce qu'on fait de sa foi, de l'engagement qu'on y met, etc. Et en ça, c'est un film vraiment passionnant, qui met en lien la religion chrétienne, à l'époque, évidemment, le communisme, qui luttait contre ces dictatures. Et c'est pas un film manichéen. Il dénonce aussi ce que sont devenus certains régimes révolutionnaires qui sont devenus les pires des dictatures par la suite. Donc voilà, c'est passionnant. Ça se passe entre on va du Salvador au Nicaragua et puis au Brésil, au Mexique. Voilà, très très beau film. Et en plus, avec la présence du réalisateur, je pense qu'on va passer une soirée assez passionnante.
Donc notez bien sur vos agendas, ce sera le lundi 16 février, 20h30, au cinéma Les Lobbies, pour une soirée événement en présence du réalisateur, et pour peut-être échanger dans un moment où, en effet, l'état du monde est relativement inquiétant, peut-être échanger sur la dimension de l'espérance, de la manière dont on peut penser malgré tout, vouloir... changer le monde dans un sens de plus grande justice, de plus grande humanité. Ce sera peut-être un moment d'échanger.
Por eso es que te hablo yo, así cómo habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Como de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me he raspado allá en el parque con Eusebio Pancho y Juan José. Ya te protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel.
Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. El Dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Yo te viste en una pulpería instalado en un caramanchel, te he visto vendiendo lotería sin que te avergüence ese papel. Yo te viste en las gasolineras chequeando las llantas de un camión y hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol.
Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Nous changeons maintenant complètement de registre avec ce quatrième film, En garde, le titre français. Un film d'une Singapourienne, Nélicia Lo, c'est son premier film. Alors cette réalisatrice a un parcours assez singulier puisqu'elle a été escrimeuse de haut niveau, au niveau national. Elle a même représenté son équipe à la clôture des Jeux Asiatiques de 2010. Et puis après, elle a fait des études de cinéma pour réaliser plusieurs courts-métrages. Et donc, En garde, c'est son premier long-métrage où il est question aussi d'escrime. Valérie, tu as vu ce film et tu pourrais nous en dire quelques mots.
Voilà, alors on va commencer par le titre, puisque En garde, c'est l'expression utilisée en escrime pour démarrer un duel. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Nélicia Lo, c'est l'escrime qu'elle a effectué en premier dans sa carrière, si on peut dire. Elle était, comme tu l'as dit, à un haut niveau. Et ensuite, elle a abandonné donc, en 2010 et elle s'est lancée dans un master de cinéma. Après avoir fait plusieurs courts-métrages, dont les thèmes étaient aussi en rapport avec l'escrime. Voilà, on arrive à ce long-métrage. Alors, qui est une belle découverte. Enfin, moi, j'ai bien apprécié ce film. Je crois qu'on était deux dans le conseil d'administration de Cinéphile à l'avoir apprécié. C'est pour ça qu'on le défend. Donc, l'histoire tourne autour de deux frères qui se retrouvent dans une situation où ils doivent se confronter. Mais ce n'est pas simplement un duel physique. Alors, c'est un duel en escrime. Il y a une dimension aussi émotionnelle et mentale qui se tisse tout au long du film. Donc c'est un film qui est un peu sous une forme de thriller. Donc il y a une tension dramatique aussi tout au long du film qui monte de plus en plus avec des questions que le spectateur peut se poser. Enfin, il y a des chemins qui ne sont pas... La réalisatrice explore plusieurs chemins, donc le spectateur se perd un petit peu, mais elle arrive bien à reprendre les choses en main jusqu'à la fin. La fin qui peut être un petit peu déroutante, mais j'en dirai pas plus. Il y a aussi dans ce film une belle élégance esthétique avec des images superbes. Hein. Alors le chef Hop, on en a parlé déjà, l'importance du chef Hop dans l'englouti. Eh bien ici, pour En garde, c'est aussi un chef Hop extraordinaire. C'est un Polonais qui s'appelle Michal Dimek et qui avait travaillé déjà dans les films qu'on avait passés, EO par exemple.
Ouais.
Cold War aussi. Ça, c'était un film en noir et blanc. Ou plus récemment, dans La jeune fille à l'aiguille. Donc voilà, c'est pas n'importe qui ce chef opérateur et on le voit dans ce film. Hein. Il est vraiment, l'esthétique est parfaite. Donc Laetitia Lowe, elle s'est inspirée évidemment de son expérience d'escrime, mais elle s'est aussi inspirée pour ce film-là d'une attaque qui a eu lieu dans le métro de Taipei en 2014 et qui s'est soldée par la mort de 4 personnes. Et l'attentat avait été perpétré par un jeune homme. Et le frère de ce dernier l'a soutenu en pensant qu'il était innocent. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un petit peu la thématique qu'on retrouve dans le film et elle s'en est beaucoup inspirée. Voilà, donc ben, l'escrime au cinéma, c'est vrai que j'ai fait un petit peu des recherches. Alors on connaît tous les films de cap et d'épée, hein, qu'on a en tête, les Trois Mousquetaires, etc. Mais il y a aussi des films ben, un peu plus récents, comme Le Maître d'escrime de 2015. Donc là c'est un professeur d'éducation physique et sportive dans l'URSS de 1950. Et c'est assez passionnant de voir cette trajectoire. Et alors, pourquoi l'escrime? Pourquoi on voit souvent de l'escrime au cinéma? En fait, c'est un sport qui a plusieurs caractéristiques. Donc, déjà, c'est un art martial qui met en avant l'honneur, le courage et puis la discipline. Voilà, c'est très... C'est exigeant comme sport. Moi-même, pour en avoir fait, je peux en être témoin. Et puis, c'est un sport aussi dans lequel il y a des chorégraphies de combat qui sont intéressantes au niveau visuel et donc pour le cinéma. Voilà, puis ensuite, il y a des enjeux de rivalité parce qu'on travaille sur l'attaque, la défense, la parade. Enfin, c'est toute une école de la vie, l'escrime, en fait. Et c'est pas étonnant qu'on la retrouve souvent dans les films de cinéma. Voilà.
Merci bien Valérie pour nous donner envie de quand même découvrir peut-être à travers ce film la manière dont ce sport qui n'est pas si fréquent que ça quand même au cinéma malgré tout actuel peut être aussi une manière de se confronter à la fois et puis de se confronter aussi au monde. Voilà, juste vous rappeler que Cinéphile c'est une association, que nous sommes présents tous les lundis en tout cas des membres du CA, du comité d'organisation, d'administration, tous les lundis à nos séances au lobby, à 20h30 ou 20h45 en règle générale. Que vous pouvez soutenir Cinéphile en adhérant. Adhérer à Cinéphile, c'est à la fois pouvoir recevoir notre bulletin bimestriel Travelling, avoir toutes les informations, puis aussi avoir des tarifs préférentiels sur les événements et les films cinéphiles, ainsi que sur le film sélectionné Focus. Donc n'hésitez pas à nous retrouver et à nous rejoindre. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.